c'est tous les mardis à 12h35 sur CFM. Histoire et religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus.
Alors ça, c'est bien vous, Bernard Vachereau. La semaine dernière, je vous demande, parlez-nous du monachisme, même si je n'ai pas employé ce terme-là. Mais moi, je voulais connaître la création des ordres religieux, des monastères et tout ça. Et vous voilà parti dans le fait, honnête, je dois le reconnaître, que le fait de vivre en communauté, dans des ordres pour aller rechercher la spiritualité, la méditation, le recueillement, etc., n'était pas une invention chrétienne, que c'était une longue tradition de l'homme, en particulier qui cherchait vraisemblablement l'isolement de toutes les influences extérieures dans les cavernes déjà, puis les Esséniens, en passant par le bouddhisme tibétain, etc. Bon, arrivons-en quand même au monachisme chrétien.
Oui, mon cher ami. Alors, après avoir vu les influences qui se sont exercées sur la quête du spirituel, cet héritage de ces influences, nous allons aborder l'époque chrétienne. Nous avons un personnage fort et intrigant qui s'appelle Saint Paul. Saint Paul, dans les années 50 et 58, a lancé vraiment ses missions. Et il a commencé de créer dans ces années-là de véritables communautés chrétiennes, surtout grecques. Or, c'est précisément, on peut dire que dans ces communautés grecques, a commencé réellement ce qu'on peut appeler l'anachorétisme. L'anachorétisme, qu'est-ce que c'est? On dit encore anachorète, hein. Ça vient du grec anachoritis, qui appartient à un vocabulaire typiquement chrétien. On ne trouvera pas anachoritis, par exemple, dans la littérature grecque païenne, enfin, ce qu'on appelle païenne, du tout. Ça, c'est typiquement chrétien. Hein. Alors, cela veut dire exactement « qui vit seul ». D'accord ? Plus tard, le monachisme. Le monachisme, tel qu'il est connu à l'heure actuelle, date surtout du IVe siècle, du moins pour ce que l'on en connaît. Je reste prudent, car le premier moine historiquement connu est saint Antoine le Grand au IVe siècle. Que veut dire monachisme? Ça veut dire monos, qui lui aussi veut dire seul en grec, hein, et désigne en fait une communauté où tous ne font qu'un. Maintenant.
C'est stéréos. Monostéréos.
Monostéréos.
En radio, oui.
Bien. Monostéréo, oui. Alors, j'ai dit soyons prudents parce que, est-on sûr que saint Antoine soit le premier à avoir fondé des monastères? La tradition l'affirme, l'histoire ne l'affirme pas.
Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé de traces intérieures?
Oui.
C'est ça. Voilà.
Selon la tradition monachique. Bah, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas.
Ben oui, parce que par définition, un ermite, il n'a pas forcément laissé un journal.
Non. Non. Alors l'ermite, justement, nous allons y venir, parce que l'anachorète et le moine, le monachique, eh bien, pratiquait l'ascétisme. Ça, c'est la base, hein, la base de vie. Alors, le terme vient du grec, lui aussi, qui veut dire askésis, qui a pour sens entraînement athlétique. Non, nous ne sommes pas au monde des Olympiades, non, mais ici, cela prend un sens de pratique exigeante des rigueurs de la foi et du rapport solitaire entre l'ermite et Dieu. Vous êtes d'accord? Il y a une espèce...
Je suis d'accord.
Non, mais c'est interrogatif. Hein. Bon, c'est d'ailleurs saint Paul qui parle des athlètes de Dieu. Hein, voilà. Mais le but de la pratique ascétique n'est pas de faire de l'athlétisme de la foi ou de la technique spirituelle. Le but est d'être un chemin ou un moyen de supprimer toute importance aux choses du corps, de la matière et du monde des vanités.
Ouh, ça nous renvoie à des choses grecques, ça.
Oui, et très profondément juives. N'oublions pas que l'Ecclésiaste, oui, le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible, qui a été très rédigé, on peut dire, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le livre de l'Ecclésiaste dit « Vanitas vanitatum omnia vanitas ». Nous lisons en latin ce qu'il disait en hébreu ou araméen. Hein. Ce qui est à dire « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Alors, le titre de l'Ecclésiaste en soi vient de l'hébreu « Kohelet », qui veut dire « l'homme de l'assemblée ou l'homme important ». Autrement dit, la référence de l'ascétisme à l'Ecclésiaste, c'est pour rechercher ce qui est important. L'unique essentiel. À l'heure actuelle, les historiens et les exégètes bibliques situent la rédaction primitive de ce livre vers 250 avant Jésus-Christ, même si bien des éléments remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, on donne encore, parce que cet ouvrage a passionné la pensée chrétienne, notamment dans les monastères. Je reste toujours sur notre sujet. Et cet ouvrage a tellement passionné qu'on l'a traduit en grec sous le terme de Septante. Hein? Bon, Septante, parce que c'est une traduction de langue grecque, bon, et qui a été faite pour les juifs de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui étaient exilés en Grèce, qui avaient perdu pratiquement tout contact historique et géographique avec leur communauté installée en Israël, bon, et qui ne parlaient plus l'hébreu ou l'araméen, qui parlaient que le grec. Donc il leur fallait une traduction pour qu'ils puissent comprendre. Hein. Alors, cette traduction ainsi répandue en Grèce, s'est répandue en Égypte. N'oublions pas que énormément de juifs intellectuels se trouvaient à Alexandrie d'Égypte.
Parce qu'ils étaient abonnés à la bibliothèque.
Exactement. Ce qui a fait, on peut dire, élargissement du rayonnement du livre de l'Ecclésiaste par le canal de la Septante grecque. Ce qui a fait aussi que les judéo-chrétiens qui étaient à Alexandrie, qui étaient en Grèce, qui étaient en Israël, ont eu connaissance de cet ouvrage et y ont puisé leur quête spirituelle.
L'histoire des religions avec Bernard Vachereau, curé de Caylus, tous les mardis à 12h35. Sur CFM.
Alors, de nombreux emprunts à ces textes ont été faits par les quatre évangélistes. Notamment...
Non.
Ah oui.
Ah. Non.
Eh tiens donc, Saint Matthieu...
Des plagiaires?
Pas du plagiat, un emprunt. C'est différent. Bon, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean ont fait, je vous l'ai dit, de nombreux emprunts à cet ouvrage. Hein. Et ce qui a fait, d'ailleurs, que beaucoup de Juifs qui n'étaient pas judéo-chrétiens, pendant longtemps ont refusé la Septante et l'Ecclésiaste, en disant, mais attendez, eh oh, ce sont les chrétiens qui les ont pris, ça peut pas être juste. Il y a eu ce petit mouvement. En fait, ça s'est très vite corrigé, puisque on a eu un auteur juif qui s'appelait Aquila, qui était originaire du pont Euxin, hein, et on a eu Symmaque, un autre juif, Théodotion, un autre juif grec, celui-là plus originellement, ainsi que d'ailleurs Symmaque d'Éphèse en Turquie, mais la Turquie avait été très hellénisée, hein, culture grecque, qui eux ont vécu entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, et qui ont dit, mais non, on peut parfaitement reconnaître l'Ecclésiaste comme un livre parfaitement juif dans l'Ancien Testament. Donc, les choses sont revenues à la norme. Puis il y a eu un penseur chrétien, celui-là, Origène. Origène, qui entre 185 et 254, a unifié tout cet ensemble d'écrits dans son livre qu'on appelait l'Exaple. Il l'a rédigé en grec et en hébreu. C'est ça le plus intéressant. Et puis encore, un autre écrivain qui est connu dans le christianisme, c'est Saint Jérôme. Saint Jérôme qui a vécu à peu près entre 347 et 420, et qui, dans sa fameuse Vulgate, a repris toutes ses traductions et les a écrites en grec, en latin.
Ah, latin.
En latin. Bon.
Enfin, une langue compréhensible.
Oui, mais il n'était pas des cônes, celui-là. C'est pour ça qu'il était plus intelligent. Pêche, je casse, hein. Bon. Et donc, l'écrit de la Vulgate a été fait entre 380 et 406. Et Saint Jérôme s'est énormément, on peut dire, a été énormément influencé par l'exemple d'Origène. Alors, à partir de là, les communautés monastiques ont commencé de se structurer à partir du 4e siècle. Non plus sur, on va dire, une nébuleuse de un peu de n'importe quoi, mais sur une pensée très conscrite, très conçue, très organisée, et notamment en Grèce, où on a vu apparaître aussi le cénobitisme, qui est un mouvement du monachisme. Mais dans le cénobitisme, le cénobite est plus libre que dans le monastère, d'organiser son temps, d'organiser sa vie monastique, etc. Alors, nous allons revenir un petit peu. Bon, qu'ont cherché ces premiers moines, dont, par exemple, Sainte Marie l'Égyptienne, qui a été, on pense, au premier siècle, qui a été sans doute la première femme moine. Moine ou ermite, bien difficile à discerner, puisque entre le 1er siècle et le 4e siècle, la différence entre les deux n'était pas clairement établie. Hein? Alors, à partir de là, nous voyons que tous ces chercheurs de Dieu ont, à partir du livre de l'Ecclésiaste, voulu enseigner à leurs lecteurs que le bon sens et la raison, ça c'est important, le bon sens et la raison devaient régir leur rapport avec Dieu et que le seul bonheur matériel et terrestre ne saurait pas répondre aux besoins réels des humains. Alors, si vous voulez, pourquoi ai-je insisté sur la raison ? Parce que là, on retrouve tout l'héritage de la philosophie grecque, surtout Socrate, Platon, Aristote. Aristote, qui va tellement marquer l'islam, hein, Platon et Socrate, qui vont, avec Aristote, tellement marquer la pensée chrétienne médiévale. Alors, que dit ce bon sens? Eh bien, au sens chrétien, cela veut dire se remettre dans le dessein de Dieu, le dessein au sens de plan, de projet. Il y a un adage latin qui est devenu une phrase liturgique. In manus tuas domine, commando spiritum meum. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Autrement dit, je remets ma quête intellectuelle, philosophique, spirituelle entre tes mains, ô Dieu. Cette quête de l'homme sur lui-même, qui va mener un auteur très contemporain, je pense à Élie de Saint-Marc, militaire de carrière, qui, dans un de ses ouvrages sur ses souvenirs, raconte ses dialogues avec un ami moine. Et comment lui, militaire, qui avait connu la violence, qui avait connu la guerre, qui avait connu le bruit, le barouf, cherchait en fait le silence et cherchait la vérité. Il rejoignit curieusement deux autres hommes. N'oublions pas saint Augustin, qui lui-même, au milieu du bruit de la civilisation de son temps, chercha le silence monastique et fonda une communauté monastique pour les prêtres de son diocèse. N'oublions pas non plus d'autres grands militaires qui ont eux-mêmes abouti dans des communautés, par exemple, chez les trappistes ou les bénédictins. Eh oui, parce que, précisément, nous allons arriver à ces anciens ermites des premiers siècles de l'Église. Alors, je voudrais tout d'abord vous citer quelques ouvrages de référence.
Et on en restera là pour aujourd'hui, hélas.
Ah, bon, d'accord. Alors, parmi les ouvrages contemporains les plus intéressants, vous avez de Jacques Lacarrière, Les hommes ivres de Dieu. Vous avez de Olivier Clément et du père Bobrinskoy, le curé russe de la cathédrale russe de Paris, La Philokalie. Voilà les deux plus grands monuments. Dans une autre émission, je pourrais vous en citer d'autres encore.
Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout lu pour la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, nouveau rendez-vous, on continuera à aborder la question du monachisme chrétien après ce grand tour d'horizon sur sa philosophie.
Voilà.
Merci Bernard Vacherot. C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM. Histoire et religion, une émission avec Bernard Vacherot, curé de Caylus.